Dans un premier temps, il avait un peu l'illusion de revenir à la chrétienté d'antan. Et en fait, c'est en 1947, dans sa lettre pastorale Essor ou déclin de l'Église, qu'il a pris la mesure du changement, qui était un changement de civilisation. Il avait cette formule, les ruines de la guerre sont une catastrophe, mais elles sont un symbole, un monde est mort qui ne se relèvera pas. Cette conscience d'un monde qui changeait complètement, d'une civilisation qui était complètement bouleversée, a été reprise au Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, et elle a été reprise 20 ans plus tard, en 1996, dans la lettre que les évêques de France ont adressée aux catholiques de notre pays, en disant justement qu'un monde s'efface et un autre est en train d'émerger sans qu'on ait aucun modèle devant nous pour savoir ce qu'il sera. Or, par toute son histoire, l'Église est solidaire du monde d'avant. Eh bien, je dirais que l'origine et la raison d'être actuelle de la Mission de France, c'est exactement ça, c'est former des prêtres, aujourd'hui aussi des laïcs, pour affronter ce changement de civilisation, ce changement de monde, et permettre à la foi chrétienne de se vivre et d'exprimer dans des langages, dans des engagements qui soient ceux de notre temps et non pas ceux des siècles passés, même si au siècle passé, naturellement, ils ont eu toute leur importance et leur grandeur.
Et qu'est-ce qu'elle représentait donc il y a 60 ans?
Ça a commencé par un séminaire qui a été créé à Lisieux, sous le patronage de Sainte Thérèse de Lisieux, qui était patronne des missions. C'était donc des prêtres qui étaient ensuite remis en équipe au service des autres diocèses de France. Cette aventure a duré pendant 10 ans, de 1942 à 1952. Tous ces prêtres étaient en équipe, en communauté. La plupart avaient un travail professionnel pour rejoindre le monde dont l'Église s'était éloignée. Et petit à petit, ils ont aussi quitté les presbytères pour des habitats beaucoup plus populaires. En 1952, il y a eu un problème d'articulation entre cette mission de France, qui était le fruit d'un séminaire, mais qui n'avait pas d'évêque, qui n'avait pas de statut particulier. Donc en 1952, le séminaire a été fermé et les évêques ont voulu reprendre les choses en main. Et en fait, c'est le cardinal Liénard qui a été chargé de ça. Le cardinal Liénard, d'ailleurs, connaissait mal la mission de France et il en entendait parler surtout par des détracteurs. Mais quand il est entré dans la mission de France et qu'il a connu les prêtres qui étaient engagés là-dedans et les objectifs qu'ils avaient, les méthodes d'apostolat innovantes qu'ils promouvaient, alors il a fait de la mission de France une cause première de son épiscopat, si je puis dire, et il l'a défendue jusqu'au bout. Et c'est en 54 que Pie XII a donné une constitution apostolique de la mission de France.
Et depuis, y a-t-il eu des évolutions? Et si oui, dans quelle mesure?
La première évolution, sans doute, c'est le profil des prêtres et le type d'activité qu'ils ont eu. Dans les années, disons, de la guerre 42 et jusqu'à la reconstruction, l'engagement des prêtres a été toujours très diversifié, mais enfin, c'était quand même très marqué par l'existence de la classe ouvrière. Depuis les années 70, on a beaucoup investi dans ce qu'on appelle le tertiaire, les services, la santé, l'hôtellerie, les migrants, les marins, etc. Donc la mission de France a toujours été très diversifiée. Nous ne voulons pas et nous n'avons jamais voulu être prisonniers d'un seul regard, d'un seul objectif. Et de ce point de vue-là, la présence de prêtres dans ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, disons à l'étranger aujourd'hui, a beaucoup, beaucoup contribué à l'élargissement de notre regard. Et je dirais la première évolution, c'est certainement celle d'une ouverture beaucoup plus grande à l'universalité du monde d'abord et de l'Église ensuite. Deuxième évolution, nous avons intégré des diacres permanents aux côtés des prêtres. Pourquoi est-ce qu'on a traîné les pieds? Je pense parce que on voyait sans doute mal comment articuler des diacres qui étaient au travail naturellement, qui avaient une vie de famille, ça c'est ce qui nous différenciait, et puis le statut des prêtres qui n'était pas très différent dans la pratique. Alors petit à petit, ces choses-là se sont mises en place. Une troisième évolution, c'est certainement une évolution théologique. D'ailleurs, ça se manifeste par le fait que pas mal de prêtres aujourd'hui de la Mission de France écrivent, alors qu'autrefois, on était beaucoup plus silencieux.
Et donc, au vu de ces évolutions, qu'est-ce que représente aujourd'hui la Mission de France?
La raison d'être de la Mission de France n'a pas changé. Mais on a souvent les échos, très souvent, malheureusement, quand les prêtres les plus âgés meurent. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de témoignages qui sont donnés et qui montrent l'attachement de chrétiens et de surtout peut-être de non-chrétiens à un visage d'Église auquel nous avons contribué, qui est un visage d'Église ouvert, qui est un visage d'Église de dialogue. Et maintenant, est-ce que l'Église de France en tant que telle, les évêques et les chrétiens ont tout à fait conscience de la richesse que représente la mission de France aujourd'hui? Ça, je ne m'avancerai pas à dire un oui franc et massif. Dans l'Église, effectivement, compte tenu des évolutions aujourd'hui, du profil d'un certain nombre de jeunes prêtres, etc., un certain nombre de gens pensent que la mission de France est très tributaire d'une histoire qui est finie, c'est-à-dire l'histoire qui a commencé la libération, qui s'est arrêtée aux années 80. Je crois que c'est mal connaître la mission de France, parce que la mission de France, s'il y a quelque chose qui la caractérise, c'est de vivre avec l'histoire. Et de ce point de vue-là, nous avons encore beaucoup de ressources et qu'on est capable d'inventer beaucoup de choses.